Donc l'intervention de ce matin s'intitule « Apprendre à regarder des œuvres d'art ». Et je vais effectivement essayer ce matin d'apporter donc des éléments de compréhension sur ce qui peut s'enseigner avec l'art à l'école. Évidemment, je ne prétends pas dire tout, tellement la question est vaste. Mon idée est plutôt de tracer un chemin en m'appuyant sur quelques points qui touchent à la façon dont l'école maternelle, primaire, le collège et le lycée peuvent favoriser la rencontre avec des élèves et l'art. Je vais également pointer ce qu'il est peut-être nécessaire de questionner pour expérimenter des formes d'enseignement qui permettent à tous les élèves de se construire comme des êtres de culture. Alors, être de culture, c'est un petit peu obscur, peut-être, je ne sais pas, pour vous. Moi, j'entends par là la possibilité de connaître les œuvres passées et de s'y intéresser pour en faire l'objet d'un développement nouveau. Donc, on s'intéresse au passé, à ce qui s'est passé avant, pour se développer pour soi-même et avec le présent. Je me réfère ici aux travaux de Georges Simmel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La tragédie de la culture ». Alors, la culture... c'est aussi une façon donc de tisser le temps passé avec le présent et l'avenir. Elle n'est pas seulement une affaire de connaissances et de savoir extérieur. Quand on sollicite, quand on veut transmettre la culture, il ne s'agit pas seulement de donner des connaissances ou des savoirs. Ça concerne aussi chaque individu, intérieurement, personnellement, dans ce qui peut exister en lui potentiellement. Georges Simmel nous dit « Nous ne sommes cultivés que lorsque tout ce que nous avons appris, connu, vu, senti, vient se greffer sur notre personnalité, lorsque nous expérimentons de nouvelles voies, ou lorsque nous sommes capables de nous projeter plus loin que là où nous sommes et au-delà de ce qui existe autour de nous dans l'ici et maintenant. » On perçoit ici toute la difficulté à laquelle l'école est confrontée lorsqu'elle doit proposer des situations, des activités, des outils qui permettent au plus grand nombre d'élèves de s'inscrire dans la culture telle que je viens de le définir. Une fois qu'on s'est donné cette direction, une idée de ce qu'il faut faire, la question est toujours de savoir comment on s'y prend. C'est bien entendu la question la plus difficile. Mais avant d'entrer dans des considérations pratiques, puisque je vais vous donner des exemples, on va travailler sur des exemples concrets, je voudrais un petit peu préciser ce qu'on entend par art, ou en tout cas dans le cadre de mon intervention, ce que j'entends par art. Et je pense que mon intervention viendra compléter celle d'Alain Kerlan que vous avez eue hier. Donc nous ne sommes pas sur les mêmes, je pense que nous ne sommes pas sur les mêmes perspectives. Donc quand on dit art, nous pensons à des pratiques, à des interventions sur la matière, sur les corps, et qui donne lieu à des créations d'objets de taille variable, à des productions de sons, d'images. On appelle tout cela des œuvres. Ces œuvres appartiennent à des échelles de temps et d'espace extrêmement larges. On ne peut pas parler de linéarité ou de continuité entre des foyers géographiques très prospères à un certain moment donné de l'histoire et puis des périodes beaucoup plus improductives, plus ternes, à d'autres moments et dans d'autres espaces. Mais l'art, c'est d'abord un très grand écart entre des formes multiples. Pour ce qui est des arts visuels, pensons au pochoir de la main de la grotte Chauvet, que vous ne voyez pas ici, pour l'instant. C'est bon ? Vous voyez ? Pensons aussi, par exemple, aux statuettes en terre cuite de Babylone, qui datent de 2000 ans avant Jésus-Christ. On peut aussi s'intéresser aux figures des temples d'Angkor du Cambodge du XIe au XIIIe siècle, ou alors au tableau de Velázquez Les Ménines, 1656, ou encore au Léviathan, sculpture monumentale créée par Anish Kapoor au Grand Palais dans l'exposition Monumenta à Paris en 2011. Vous imaginez un peu l'écart dans lequel nous sommes projetés. Alors, ce point de vue, on peut rallumer si vous voulez, Ce point de vue permet sans aucun doute de nous rappeler qu'il n'y a pas de système de valeurs permettant de privilégier un art plus qu'un autre et que l'hégémonie de la civilisation occidentale n'implique pas la négation des autres civilisations. Soyons donc attentifs au fait que l'art est toujours le résultat d'un mixage et le produit d'influences disparates. Il n'y a donc pas de style pur. La Vénus de Milo, c'est un chef-d'œuvre de la statuaire grecque. Eh bien, il représente une femme qui a le type nordique. Ou le nu bleu, souvenir de Biskra de Matisse, que vous voyez ici. Lui, il révèle une intrusion de l'art africain dans son art par la réorganisation du corps, le renouvellement de l'expression de la figure humaine. Ainsi, on peut rallumer, lorsque l'école enseigne l'art comme un croisement de formes, de techniques, de questions, elle ne discrédite pas la culture des uns pour privilégier la culture des autres. Vous voyez où je veux en venir ? Elle renonce à poser donc une vérité dans l'art, elle ouvre un horizon de possible. Tous les élèves peuvent se saisir et peuvent saisir là quelque chose qui ne concerne pas seulement la culture occidentale, franco-française, univers dans lequel ils ne se retrouvent pas tous et ils ne se retrouvent pas complètement. Ou alors, ils peuvent attraper quelque chose de cette culture occidentale, mais précisément parce qu'elle est traversée par d'autres espaces et d'autres temporalités. Gardons bien cela à l'esprit. Alors, l'art, c'est aussi un geste, une façon d'être un homme, et cela concerne tout le monde. Être humain, c'est produire la trace de son absence sur la paroi du monde, écrit Marie-Josée Mondezin dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Homo spectator ». Je répète, être humain, c'est produire la trace de son absence sur la paroi du monde. Les mains en pochoir de la grotte Chauvet. Et cette trace continue d'exister de façon autonome au-delà de la vie humaine. L'art, c'est donc ce qui permet de dépasser l'existence marquée par la finitude. C'est aussi un moyen de partager avec ceux qui viendront après, dans le temps, une expérience vécue, un rapport au monde, un sentiment. Si l'école parvient à faire passer cette dimension anthropologique de l'art, elle propose des clés pour sortir des chocs culturels qui enveniment la vie scolaire. Marquons un temps d'arrêt maintenant pour bien mesurer ce qui se joue pour des élèves de l'éducation prioritaire quand il s'agit de les mettre en contact avec l'art. Alors, dans les instructions officielles récentes, l'idée de parcours est intéressante parce qu'elle suppose continuité et durabilité. Alors, pour résumer très rapidement, et je pense que vous êtes quand même bien au courant de ces questions-là, l'école a pour mission de découvrir des œuvres, des formes, des objets, des événements, des expériences artistiques, enfin de faire découvrir. Donc de favoriser l'accès au moyen de la pratique, au moyen de la réception des œuvres, et si les deux marchent encore, c'est encore mieux. Si les deux marchent ensemble, pardon, pratique, réception. Elle a aussi pour mission d'apprendre comment tout cela fonctionne, c'est-à-dire comment comprendre la matérialité des œuvres et les processus techniques qu'elles engagent. Donc, ça aboutit à des enseignements spécifiques, des savoirs techniques. Quand on s'intéresse à la sculpture, à un moment donné, il faut s'interroger sur les matériaux, la vie des matériaux, comment les matériaux réagissent aux gestes. Dernière chose, l'école a pour mission de construire les élèves comme des destinataires, comme des auditeurs, des spectateurs, des amateurs d'art. Elle a pour mission donc de créer des postures, des manières de regarder, d'observer et de se situer vis-à-vis des œuvres. Donc on s'inscrit avec tout ça dans ce qu'on appelle la culture scolaire. Alors cette culture scolaire est marquée par un certain nombre d'exigences. Je vais en citer quelques-unes pour bien faire le contraste entre justement ce qu'attend l'école des élèves en général et ce que les élèves de l'éducation prioritaire ont du mal à donner par rapport à cette attente. Donc, quelle est l'attente de l'école pour ce qui concerne l'entrée dans la culture et l'appropriation de l'art en général? Première chose, l'école attend l'objectivation, la distanciation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Détacher un objet de l'expérience personnelle, ordinaire, pour le constituer en objet d'étude. Cette transformation, alors par exemple la pluie, il pleut dehors chez ma grand-mère quand je suis toute seule, et puis la pluie quand je l'étudie à l'école, c'est un phénomène physique, météorologique, etc. Donc je sors de l'expérience personnelle de la pluie pour constituer l'objet pluie en objet d'étude. Alors ici, le langage joue un rôle transformateur. Puisque l'objectivation n'agit pas seulement sur l'objet pluie que j'ai cité, mais aussi sur celui qui en parle. Ça modifie aussi le sujet dans sa manière de voir, d'appréhender et de concevoir le phénomène pluie. Alors, le langage, ici, a un rôle majeur. Je pense qu'on vous en a déjà parlé. Il n'est pas seulement un outil de communication ou de notation. Le langage modifie notre aptitude à appréhender le monde, à le comprendre et à le transformer. Je m'appuie ici sur les travaux de Benveniste et de Vygotsky, selon lequel il n'y a pas de pensée sans une pratique du langage, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de langage sans un exercice de la pensée. Donc nous allons voir que dans la façon dont on utilise le langage à l'école, il renforce ou consolide d'autres activités, d'autres formes d'expression comme la pratique artistique ou la manipulation des images. Le langage n'est pas antinomique, c'est pas parce qu'il est lié à la pensée qu'il est antinomique avec l'exercice ou l'expérience de la sensibilité. Le langage donc ne s'oppose pas aux activités perceptives, affectives, émotionnelles. Bien au contraire, il peut servir à les faire émerger. Et je pense que cette dimension du langage est sous-employée à l'école. Et enfin, le langage ne se réduit pas à l'exercice scolaire d'un discours continu et linéaire sur une feuille blanche. On peut utiliser le langage comme brouillon, comme émergence d'idées dans un rapport non fini, inachevé, comme quelque chose qui n'a pas besoin d'être évalué en permanence. Le langage peut donc être pratiqué comme une expérience pour dire ce qu'on voit et se dire, se construire comme témoin du monde, comme un spectateur. Donc je parle ici d'une pratique du langage qui donne des outils pour penser librement, une pratique du langage dans la classe qui laisse sortir les hésitations, les doutes, les tremblements, les erreurs. Une pratique qui ne se résume pas à l'exercice d'un pouvoir dire mieux ou plus que l'autre. Je reviens aux exigences du monde scolaire. L'objectivation, qui est en œuvre dans tout apprentissage, c'est-à-dire la mise à distance de l'expérience immédiate, se traduit par une forme de décontextualisation qui permet la généralisation ou la construction des objets du monde en savoir. À l'école, un film vu en salle, une peinture ou une sculpture vue dans un musée sont resitués dans leur contexte de production, contexte historique, contexte géographique de production. On identifie l'auteur, le lieu dans lequel l'œuvre a été produite, ce qui en fait un objet d'étude et non plus une expérience sensationnelle, immédiate. On est donc dans une décontextualisation de l'expérience avec une œuvre, pour la recontextualiser dans la classe et la construire en un objet d'étude. Finalement, cette œuvre, ce film qu'on a vu en dehors de l'école, ou même le phénomène pluie, si on élargit un peu la question des objets scolaires, cet objet-là, cette œuvre, ce film, ne sont plus appréhendés dans un présent de l'expérience, ils sont vécus au-delà de soi. Il y a donc une dimension temporelle importante dans les apprentissages, puisque l'élève qui apprend inscrit son activité au-delà des rythmes de la vie scolaire aussi, au-delà de l'heure de français, d'histoire, d'éducation physique. Il inscrit son action dans une amplitude plus large, dans un espace-temps plus grand que ce qui le touche ici, maintenant et directement. Alors, les élèves qui sont scolarisés dans les territoires d'éducation prioritaire, ou la plupart d'entre eux au moins, ne sont pas aussi bien préparés que les élèves des classes moyennes et aisées pour entrer dans ces apprentissages. Ils ne côtoient pas la culture scolaire aussi naturellement que les autres. On se trouve donc ici face à des élèves qui aiment ou qui n'aiment pas quelque chose, en bloc, sans détailler les raisons de leur jugement. Cette bipolarité du jugement, j'aime, j'aime pas, fonctionne souvent avec le fait qu'ils manient difficilement les idées générales et abstraites, ce qui entraîne souvent des jugements à l'emporte-pièce, qui s'appuient sur la reconnaissance des qualités concrètes des choses. Alors, pour définir, pour profiler un peu comme ça les élèves d'éducation prioritaire, je m'appuie beaucoup sur l'ouvrage de Richard Hogarth, qui s'appelle « La culture du pauvre », puis sur les travaux de Pierre Bourdieu et d'Alain Darbel, qui concernent le rapport à l'art, à la culture et à la photographie notamment. Alors, la valorisation de l'utile ou du fonctionnel qu'on trouve chez les élèves de milieux populaires implique aussi une tendance souvent à refuser le plaisir désintéressé ou la gratuité d'une chose ou d'une image. Donc, à la différence de ceux qui sont habitués dans leur milieu familial, social, ces élèves ne sont pas familiers des principes de classement historique, formel, stylistique entre les œuvres. Ils sont donc toujours plutôt attirés par la dimension narrative d'un film, d'une photographie, d'un livre ou d'une peinture. C'est difficile de les faire se déplacer de la dimension narrative vers une dimension plus formelle. Il est aussi difficile de les faire déplacer de cette dimension narrative vers la dimension de quel effet ça produit chez moi, puisque à ce moment-là, il faut qu'ils parlent d'eux et donc qu'ils s'engagent comme être singulier, détaché du groupe, détaché d'une norme. Et ça, c'est aussi très difficile, puisque ils ont des valeurs de référence qui sont souvent attachées à l'environnement proche, à la famille pour les plus jeunes, au groupe de pairs pour les adolescents. Et souvent, ils sont pris dans un antagonisme entre nous, la communauté de ceux qui leur ressemblent, avec qui ils partagent les mêmes valeurs, et eux, les autres, les profs, l'école, le monde, etc. On note aussi chez ces élèves l'absence de perspective ou de mise en perspective dans le futur ou dans le passé. C'est le vécu immédiat, présent, qui est privilégié. Donc ça fait vraiment contraste avec ce que je viens de vous dire sur l'art et toute l'amplitude temporelle que ça concerne. Vous pouvez donc mesurer l'écart qui existe entre ces élèves et ce qu'on attend d'eux quand on introduit l'art à l'école. Et même si l'art fait bouger l'école, comme le dit très justement Alain Kerlan, la difficulté n'est pas moindre pour ces élèves de s'inscrire dans un rapport durable à l'art. Alors, les difficultés que rencontrent ces élèves sont souvent renforcées par ce qu'on appelle une pédagogie implicite. Pédagogie implicite, c'est un phénomène qui a été dénoncé par Basile Bernstein dès les années 70 dans son ouvrage « Langage et classe sociale ». Alors, l'auteur y dénonce le fait que certaines compétences qui sont attendues par l'école ne sont pas enseignées. On n'enseigne jamais la prise de notes. On n'enseigne jamais, enfin, quand je dis jamais, j'exagère, mais on enseigne peu la prise de notes. On enseigne, dans le primaire par exemple, on enseigne très peu la prise de notes. On enseigne très peu l'usage du brouillon comme écrit intermédiaire, ayant toute une valeur aussi importante que l'écrit final. De la même façon, en petite section maternelle, on enseigne rarement l'usage des ciseaux pour apprendre à découper. Souvent, on peut considérer, et on considère, que les élèves savent déjà découper. Or, il y a tout un tas d'élèves, et vous le savez quand vous êtes confrontés à ces enfants-là, qui n'apprennent pas ça à l'école ou en crèche, etc. Donc c'est ça qu'on appelle la pédagogie implicite. C'est demander à des élèves de 4 ans de découper des étiquettes pour les trier et les reclasser, alors qu'en fait, on ne s'est pas assuré que tout le monde savait déjà découper. De la même façon, quand on va au musée ou dans un centre d'art, n'hésitons pas à nous assurer que les élèves ont bien compris qu'est-ce qu'un tableau, qu'est-ce qu'une sculpture, une photographie, qu'est-ce que c'est qu'un artiste, ou qu'est-ce qu'un musée, un centre d'art, puisque évidemment ces élèves n'ont pas baigné dans un univers qui les a familiarisés avec ce genre de choses. Bon, malgré cela, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, l'école ne peut pas éviter de relever le défi d'aider tous les élèves à se repérer dans le visible, à tenir le regard face à la complexité du champ artistique, même si elle ne fait qu'amorcer un travail qui s'étend dans la durée. Alors, quelle direction prendre concrètement ? Je vais développer ici plusieurs points qui touchent à la façon dont l'école peut favoriser la rencontre avec des œuvres, enseigner des savoirs techniques et travailler ses postures de spectateur, d'amateur, en essayant de toucher à la fois ce qui peut se passer en maternelle, mais aussi primaire, collège, lycée. Alors, vous allez peut-être être effrayé par les exemples que je vais proposer si vous considérez que la peinture ancienne, moderne, ou les films muets et en noir et blanc sont moins accessibles aux élèves de l'éducation prioritaire que les productions contemporaines. Je n'ai rien contre l'art contemporain, mais je me méfie de ce genre de croyance. Vous serez peut-être aussi choqué si vous pensez qu'il vaut mieux les faire manipuler, créer, plutôt que de leur demander de regarder attentivement des œuvres. Je n'ai rien non plus contre la pratique artistique, mais lorsqu'elle n'est pas rattachée à un travail du regard, elle ne peut pas enrichir celui qui la développe. Pour faire une expérience artistique, il faut cultiver un intérêt pour les œuvres des autres et ne pas s'en tenir au seul présent. Donc, bon, je vous rassure un peu peut-être, mais même si ce que je vais vous dire est un peu inquiétant, il y a encore des élèves dans les écoles d'art, donc en post-bac, qui ne sont absolument pas curieux des œuvres des autres, des œuvres passées, et qui sont complètement enfermés dans une pratique artistique singulière et individuelle, et qui sont incapables de s'affilier en fait à la culture ou à la grande culture. Donc par conséquent, même si toute œuvre d'art, qu'elle soit contemporaine ou non, est nécessairement complexe et difficile à cerner, l'école ne peut pas renoncer à la complexité des productions humaines au risque de maintenir son public dans un monde simplifié qui ne se réfère qu'à son présent. Alors commençons par observer. Observer pour apprendre à regarder. Pourquoi pas ? Commencer par là. On peut effectivement commencer par sensibiliser les élèves au fait que les œuvres d'art ne collent jamais totalement à l'objet qu'elles représentent. Leur vocation dépasse l'imitation ou la simulation du réel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tous les élèves. Ça se construit, ça s'apprend. Au-delà de l'utilité directe, ce décalage entre le réel et ses représentations ouvre un champ pour l'imagination et la pensée. Il est donc primordial de mettre les élèves en situation de regarder des œuvres longuement et en détail, comme le préconisait l'historien de l'art Daniel Arras. La question du dispositif est essentielle. Comment fait-on dans une classe, avec une classe, pour instaurer cette activité d'observation attentive et durable ? Alors, quand on a la possibilité d'accéder directement à des œuvres, comme un établissement que j'ai suivi au cours d'une recherche il y a quelques années à Clichy-sous-Bois, qui organisait des expositions dans une salle de classe, salle d'un collège, réservée à cet effet avec la complicité du Conseil général du 93 et du FRAC. Et le FRAC prêtait des œuvres de sa collection à cet enseignant. L'observation attentive et répétée des œuvres pouvait avoir lieu. L'enseignant y organisait 3 expositions de 3 œuvres par an pour toutes les classes du collège.
soit la possibilité pour un élève de 6e de voir 36 œuvres durant sa scolarité jusqu'en 3e. Pour des élèves peu familiarisés à la culture scolaire, la proximité du lieu d'exposition avec les salles de classe était une occasion formidable de favoriser la répétition, la durée, indispensable pour installer les élèves dans une réception de l'art qui se réalise dans des temporalités différentes, durant 4 années et avec plusieurs visites des mêmes œuvres. Donc à chaque exposition, les élèves allaient 3 fois, 3 séances de suite, 3 semaines de suite, dans la salle pour les regarder. La possibilité donc d'un retour sur ces œuvres approfondit le regard. On s'interroge, on cherche à comprendre, entre la première séance et la dernière, on change peu à peu de point de vue. Et c'est là que quelque chose peut se passer. Alors, par ailleurs, le dispositif qui était installé était très explicite. L'enseignant rendait complètement lisible ce que les élèves devaient faire. Du dessin d'observation, écrire des questions individuellement, partager ses interrogations oralement en collectif, chercher des explications sur les contenus de l'œuvre, faire des hypothèses en s'appuyant sur des indices formels et sur la lecture des légendes des œuvres. Assis, immobiles, face aux œuvres comme s'ils étaient face à un tableau noir, les élèves se trouvaient finalement dans une disposition qui induit une relation pédagogique connue. Le temps du regard, le temps de l'étonnement et du questionnement s'inscrivait du coup dans l'ordinaire d'une situation de classe. Tout aspect ludique, changeant ou extraordinaire lié à la sortie scolaire, au musée, au cinéma, était évacué au profit d'une confrontation instaurée comme une règle. Et c'est pas inintéressant, finalement, de voir qu'à un moment donné, on peut stabiliser une situation connue. Et à l'intérieur de cette situation connue et stabilisée, on y introduit de l'inconnu, quelque chose qui permet le déplacement des élèves. Au final, les élèves les plus fragiles scolairement sont ceux qui se laissent le distraire le plus facilement. Dans ce genre de dispositif, le caractère reconnaissable de la situation rend possible des postures d'observation, de questionnement et d'interprétation. Et cette stabilité permet aussi aux élèves de prendre les risques cognitifs qui sont nécessaires à tout apprentissage. S'aventurer à penser quelque chose au-delà de la vérité ou de la fausseté d'une réponse. Alors, on l'aura compris, dans le travail d'observation, il est évident que c'est l'original qu'il faut privilégier, puisque pour une peinture, comme une photographie, un film ou une sculpture, l'artisanat est une dimension incontournable de la création artistique. Pourtant, c'est quand même pas évident de faire venir des œuvres d'art dans des établissements scolaires. C'est même quasi impossible, puisque le dispositif que j'ai pu observer était réalisé grâce au soutien de l'enseignant, son impulsion, mais son chef d'établissement et toute la hiérarchie qui le suivait derrière. Mais ça a été possible pendant plusieurs années. Donc il faut aussi que la hiérarchie se mobilise pour aider les enseignants à établir ce genre de dispositif. Mais alors, il faut aussi, je pense, avoir en tête quelques écueils concernant les conditions d'accessibilité des œuvres dans les musées ou les centres d'art. Quand l'école doit sortir pour aller dans ces lieux-là, on s'aperçoit que les dispositifs de médiation ne permettent pas toujours de mieux voir. Ils offrent une mise en scène de l'art, la scénographie, qui tend à reléguer au second plan un rapport d'observation direct avec les œuvres. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller au musée ou au centre d'art, bien au contraire, mais je signale simplement que la visite ne suffit peut-être pas à l'observation attentive et à la nuance et au déplacement des élèves. Nombreux sont aussi les lieux de diffusion de l'art qui privilégient les associations perceptives, son, lumière, couleur, matière, ainsi que la variété des supports, vidéo, photographie, peinture, texte, son, encore une fois, comme au MUSEM, par exemple, à Marseille. Les élèves, du coup, sont sollicités de toutes parts et pris dans des rapports de sens et d'expériences perceptives qui se tissent entre les œuvres, mais ils peuvent être très vite dépassés et rejetés tout en bloc. Pourquoi ? Parce que on ne prend pas le temps de regarder, de considérer une œuvre sonore, une œuvre tactile, une œuvre, voilà. Donc finalement, et même paradoxalement, je dirais que la reproduction de l'œuvre présente l'avantage de donner du temps au regard, à l'observation attentive et détaillée, et en l'utilisant dans les classes, l'école peut sans aucun doute favoriser le questionnement des élèves vis-à-vis de ce qu'ils voient, les aider à objectiver leur expérience du regard. Alors, on va commencer par un exercice qui est tout à fait possible de la maternelle, enfin je dirais de la grande section maternelle jusqu'au lycée. Après, il faut voir comment on l'adapte selon le niveau des élèves. Je voudrais partir d'une situation vécue avec une collégienne qui regarde le tableau de Diego Velázquez, Les Ménines, 1656, et qui dit « C'est un peu comme Pirates des Caraïbes ». Finalement, si on regarde ces deux images côte à côte, qu'est-ce qu'on voit ? Le tableau reproduit est une photographie du film. Il y a un certain nombre de similitudes. Costumes des temps anciens, pirates, princesses, nains, monstres, position frontale des personnages, avec adresse au spectateur, la jeune adolescente n'a pas tort. Autre similitude, et ça on le sait quand on cherche un petit peu plus dans l'histoire, travail de l'enseignant, mais travail qui peut aussi être fait avec des élèves au lycée, il s'agit de deux images de propagande. La première, réalisée au XVIIe siècle, fait la promotion de la puissance de la cour du roi d'Espagne, Philippe IV. L'autre incite le spectateur à voir un film d'aventure dans lequel la force héroïque ou maléfique des personnages s'impose comme une certitude. Nous sommes au XXIe siècle. Alors, ces correspondances sont d'autant plus percutantes que le tableau de Velázquez est regardé au moyen de sa reproduction. La perception n'est plus celle d'une œuvre peinte accrochée dans un musée. Le tableau devient image, son format est modulable et son contexte réel d'exposition disparaît. Pour un travail en classe, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, la remarque de la collégienne est fort utile. Et souvent, l'enseignant peut s'approprier justement les remarques qui paraissent un petit peu excentriques des élèves, pour pouvoir creuser, parce que souvent, ils disent quelque chose, il y a un fil à tirer, et là, du coup, on rend visible un certain nombre de choses. Donc, la photographie de Pirates des Caraïbes apporte un repère, du coup, accessible à tous, une référence partagée, parce qu'elle appartient à une actualité, à l'univers des films d'action américains que tous les élèves connaissent. Et à partir de cette accroche, l'attention peut se centrer sur le tableau de Velázquez. En maternelle et en primaire, on pourra s'interroger sur sur qui sont ces gens qui sont représentés dans le tableau, où sont-ils, comment sont-ils placés les uns par rapport aux autres. La reconstitution de l'œuvre par la mise en scène est un travail possible dès la grande section. Observer la direction des regards, nommer, reproduire la position des corps dans un espace, le tableau mis en corps peut ainsi révéler les secrets de sa composition. Donc on voit ici que le regard, le travail du regard et d'observation est articulé avec un travail de mise en scène, de mise en corps, de pratique. Donc la construction des repères spatiaux pour les petits élèves de maternelle va favoriser aussi l'adoption d'un autre point de vue et l'ouverture à la compréhension du monde, d'un autre monde, celui de la cour du roi, au-delà de ce qui touche les élèves dans un ici et maintenant. Pour les plus grandes classes, l'activité évidemment se poursuit autour du rapport qui s'établit avec le spectateur dans ce tableau. Où sommes-nous, nous qui regardons ? Où est le peintre dans le tableau ? Qui regarde-t-il et dans quelle direction ? Qui se reflète dans le miroir ? Et avec toutes ces questions, on entre dans le tableau pour rencontrer la profondeur du sujet qui est peint dans le tableau, enfin, qui est celui qui est peint dans le tableau de Velázquez? Est-ce que c'est nous? Non, évidemment. Mais cette mise en abîme nous interroge. Et si ce sont les deux personnages qui sont reflétés au fond du miroir, c'est nous qui prenons leur place. Par conséquent, qu'il s'agisse de la première possibilité ou de la deuxième possibilité, Velázquez a choisi de ne pas laisser le regardeur, nous, en dehors de la toile. Et il nous y invite, il nous interpelle. Ça, ce sont des questions qui peuvent être travaillées au collège, au lycée, sans aucun problème. Alors, mettre sur un même niveau des images de nature différente, peinture, images publicitaires, ça permet aussi de creuser, de voir que, au-delà des similitudes de surface, la démarche artistique de Velázquez est radicalement différente de l'approche marketing des producteurs de la saga. Et du coup, ça nous permet aussi de voir que, d'un côté, on a une image qui invite le spectateur à rentrer dans le tableau, à s'interroger. De l'autre, une image où les quatre personnages n'interagissent pas avec le fond et finalement ne s'adressent pas réellement au spectateur. Donc cette sensibilisation, en fait, pour les plus jeunes à la diversité des champs visuels, produit finalement un enseignement pour les plus grands de la différence des expériences du regard entre l'art et la publicité. On est bien d'accord que si ces deux images ont pour vocation de faire croire à la puissance des rois ou des héros, il ne se passe pas du tout la même chose dans la relation qui s'installe avec le spectateur. Autre exemple, et pour aller peut-être un peu plus loin sur cette question des confrontations d'images au collège ou au lycée, la question que j'ai évoquée très rapidement tout à l'heure sur le voisinage ou la circulation entre des peintures, notamment les peintures d'art moderne de Matisse, Picasso, Derain ou Vlaminck, avec des statues, des masques, des sculptures océaniennes, africaines, égyptiennes. On peut travailler la comparaison d'œuvres appartenant à des espaces géographiques différents. Donc vous avez ici une figure reliquaire de la région Fang du Gabon, située à peu près au XIXe siècle, c'est un anonyme, puis la femme aux mains nues de Picasso, créée en 1907. Alors, question à poser, qu'est-ce que ces deux œuvres ont en commun? Qu'est-ce qui les distingue? Voilà deux axes d'exploration pour entrer un peu plus vivement dans l'observation attentive de ces deux reproductions. Elles sont similaires, certes, au niveau du sujet. Deux femmes aux mains jointes, les yeux clos, dans une position de retrait vis-à-vis du monde. Au niveau formel, on constate des rondeurs et une simplification de la représentation. Mais on a d'un côté une statue, de l'autre côté une peinture. Un personnage debout, un personnage qui aurait plutôt tendance à être assis. Un anonyme et une œuvre d'un des plus grands génies, enfin d'un des plus grands génies de l'art occidental. Et puis, à un moment donné, si on regarde leur format, si on s'intéresse à leur format, on ne perçoit pas du tout les choses de la même façon. On s'aperçoit que le bois sculpté fait 39 cm et que la peinture fait presque 1 mètre. Donc, les rapports de connivence, de similitude ou de différence ne sont pas les mêmes. Même si on n'est pas devant des œuvres en vrai, la reproduction permet de faire réfléchir les élèves sur la perception qu'on peut avoir d'une œuvre selon son format, selon la façon dont on la voit en relation avec une autre. Ici, l'attention portée à la légende des œuvres est un moyen d'apprendre des choses sur le contexte historique, géographique de leur production. Alors, je vais peut-être pas rentrer dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais si on creuse un peu les légendes, donc on peut apprendre des choses sur Picasso, sa vie, son arrivée à Paris, et puis sur la façon dont, à un moment donné, il a été influencé, ou en tout cas, il s'est inspiré de l'art africain. Et de l'autre côté, la statue Fang, on peut apprendre aussi des choses sur pourquoi il construisait des reliques, pourquoi cette personne, enfin cette statue, a à la fois un air enfantin et en même temps un comportement ou en tout cas une attitude extrêmement méditative. On peut aussi rentrer dans des considérations sur les rituels des Fang, enfin du peuple Fang au Gabon et en Nouvelle-Guinée, etc. Mais si on revient sur la similitude entre ces deux images, on peut travailler avec des collégiens ou des lycéens sur le fait que est-ce que ça a à voir quelque chose avec Picasso ou pas? Et en fait, quand Picasso réalise cette femme aux mains nues en 1907, il a longtemps travaillé sur le portrait de Gertrude Stein, que vous voyez ici, puisqu'il a été terminé en 1906, et il passe d'un mode de représentation à un autre, d'une manière assez radicale. On pourrait donc imaginer, avec les collégiens, avec les élèves, en faisant des hypothèses, que Picasso s'est inspiré des statues du Gabon. On pourrait aussi imaginer que pour faire de l'art, il suffit de prendre une forme, ici ou là, et de la réinterpréter à sa manière. Mais les choses ne sont pas si simples, encore une fois. Et là, on touche une question essentielle avec l'art. Picasso dit qu'il ne connaît pas l'art africain. Matisse lui avait montré simplement une statue égyptienne en 1906, qui est le point de départ, en fait, de son intérêt pour l'art, qualifié à l'époque de primitif. Mais en 1907, il n'a pas encore été confronté, choqué par l'expressivité de la collection du musée d'art, du musée d'ethnographie du Trocadéro, qu'il découvre un tout petit peu plus tard. Donc pourquoi Picasso, et ça c'est une question vraiment qu'on peut travailler avec les élèves, pourquoi Picasso représente cette femme comme ceci, alors qu'il n'a pas encore pris connaissance des statues de la collection du musée du Trocadéro? Et en même temps qu'il réalise cette femme aux mains nues, il est en train de travailler sur les demoiselles d'Avignon. Donc, comment faire, comment comprendre, et ça c'est vraiment une question que les historiens d'art se sont posées, finalement, une des hypothèses, c'est que pour la réalisation des femmes, de la femme aux mains nues ou des demoiselles d'Avignon, quelque part, Picasso a voulu revenir à un mode de représentation beaucoup plus premier, beaucoup plus essentiel, et donner plutôt forme à ce qui les hante, le hante, ou à ses terreurs, à ses désirs élémentaires, et finalement à ce que l'homme est ou demeure malgré les civilisations, malgré les morales, malgré les cultures. Finalement, ce qu'il apprendra plus tard en découvrant la collection d'art africain et océanien au Trocadéro ne fera que conforter la voie qu'il avait prise lui-même, pour lui-même, dans ce désir de revenir à une représentation beaucoup plus basique de la figure humaine. La peinture, et ça c'est intéressant aussi à travailler, n'est donc du coup pas qu'une affaire d'écriture de forme, de procédé, d'équilibre à trouver, c'est aussi une façon de se situer dans le monde, de faire avec le fait d'être un homme mortel. Dans un travail de comparaison comme celui-là, c'est une dimension essentielle de l'art comme nécessité profonde qui peut être enseignée. Et je pense que les élèves, les adolescents qui sont quand même traversés par ces questions de l'identité, du fait d'être, de pas être, de la vie, qu'est-ce que c'est pas, et si je meurs, et si je meurs pas, peuvent toucher des choses qui les concernent profondément, mais par la médiation des œuvres. De la même façon, les élèves sont du coup emmenés dans des considérations qui les sortent de leur expérience personnelle, souvent enfouie, mais ils touchent des choses qui sont essentielles en s'intéressant à autre chose. J'ai parlé tout à l'heure du détail, de la question du détail qui pouvait être vraiment un champ d'exploration pour observer les œuvres à l'école. Je me suis basée sur les travaux de Daniel Arras. Vous lisez Histoire de peinture, c'est extraordinaire. Il vous emmène dans les tableaux, dans la profondeur des tableaux, des détails, mais en étant toujours capable, évidemment, de faire valoir le détail vis-à-vis de l'œuvre en général. Donc là, c'est encore une des possibilités pour l'enseignant d'introduire des niveaux de vision différents en identifiant d'abord qu'est-ce qui est représenté et en s'intéressant surtout à la façon dont ce sujet est traité. Comparer par exemple deux œuvres au sujet identique permet de voir tout de suite que les portraits équestres ou les scènes à cheval ne se ressemblent pas. Malgré les apparences entre ces deux tableaux, Donc, le prince Balthazar Carlos de Diego Velázquez et l'officier de chasseur à cheval de la garde impériale de Jéricho. Il existe des divergences, peut-être plus de divergences que de similitudes. Et ça, c'est intéressant d'aller toujours, de montrer des choses plus ou moins similaires pour aller chercher les dissemblances. Ça oblige le regard à regarder dans le détail, à regarder un peu plus loin que la surface. Alors, où est donc la différence, si ce n'est dans la peinture elle-même, ici, dans sa composition, dans le choix des couleurs, le traitement de la lumière, la présence des détails. Alors, on voit que le prince Balthazar Carlos s'affiche en avant du tableau, en laissant derrière lui un paysage paisible. On est encore une fois dans l'éloge de la grandeur impériale de la cour d'Espagne. Alors que l'officier de chasseur à cheval de Jéricho domine l'espace, mais se détache un peu plus confusément du fond. On n'a plus la gloire de la monarchie espagnole comme chez Velázquez. Avec Jéricho, on a une allégorie de la chute de l'empire napoléonien. Alors, selon les niveaux de classe, évidemment, on va aller dans ce genre de détails historiques, ou pas, plus ou moins. Mais avec les plus jeunes, on notera déjà la différence d'orientation des chevaux et des espaces qui entourent la figure, puis de l'expression des visages. L'enseignant aide ainsi à construire des premiers repères pour faire la différence entre deux choses apparemment similaires. Si on laisse de côté le prince Balthazar pour observer plus précisément la toile reproduite de Théodore Jéricho, le cadrage de la composition est resserré sur le cheval, qui occupe toute la largeur. La ligne d'horizon projette le cavalier vers le spectateur. Son regard est tourné vers lui, mais il se perd en un point invisible. Si on fait un gros plan, là je ne vais pas zoomer, mais on peut aussi à un moment donné apporter une image recentré sur le visage du chasseur pour travailler vraiment l'expression du regard. Rien dans ce visage-là ne laisse paraître que le soldat s'acharne au combat. Le cavalier est dans l'action, mais sans y être. Il fait la guerre, mais son visage et son regard disent autre chose. Ici, le tableau résiste à une interprétation simplifiée. Il y a une sorte de paradoxe qui émerge du travail d'observation. Et pour amener les élèves à saisir cette nuance, l'enseignant peut conduire le questionnement. Si on regarde attentivement le visage du cavalier, comment sont ses yeux? Que regarde-t-il? Pourquoi son regard est-il dans le vague alors qu'il est dans un combat? Donc l'enseignant va faire jouer et sortir le paradoxe. Situation-problème, finalement. Alors pour les plus jeunes, on peut encore une fois utiliser la mise en scène du tableau. Avec le mime, l'enseignant qui attire l'attention sur la façon dont un soldat ordinaire pourrait regarder son adversaire en situation de combat. On prend un air méchant, on fronce les sourcils, on veut faire peur. La classe peut dessiner, photographier les regards qui sont simulés par les élèves. Une comparaison peut alors s'établir entre ces regards, ces expressions, puis le détail du visage de Jéricho, pour constater qu'il ne s'agit pas de la même chose. Et là, en s'arrêtant sur ce qui fait question, l'enseignant va nourrir l'étonnement qu'il y a dans le fait de voir. Il évoque l'écart qui persiste entre une représentation et la réalité à laquelle elle se réfère. Donc il sensibilise aussi au fait que la figuration dans la peinture est plus une interprétation qu'une imitation du réel. Et là, avec des élèves plus âgés, on peut aller dans cette question de la différence entre imitation, interprétation. Au final, dans ce type d'activité, les élèves peuvent commencer à s'éprouver comme des spectateurs qui voient, qui comprennent, qui imaginent des choses plus ou moins différentes à partir d'un même objet. La peinture, ou l'art plus généralement, n'est plus seulement une représentation, c'est aussi une adresse qui est faite à nous, les spectateurs. Alors, quand il y a des incertitudes comme ça, des paradoxes, des incompréhensions qui émergent, loin d'écarter ses obstacles. Et lorsque l'accès direct au tableau est possible, l'enseignant peut s'en saisir pour emmener les élèves au-delà de ce qui va faire image, c'est-à-dire dans la dimension beaucoup plus mystérieuse de la peinture, de la sculpture, une tache, une coulure, un trait, un empattement. Les incertitudes, les incompréhensions ne sont pas forcément à bafouer. Et c'est souvent ce que les élèves de l'éducation prioritaire ont du mal à supporter. Donc c'est ce qu'on appelle l'insécurité cognitive. Mais plus le dispositif d'observation est cadré, plus vous savez où vous allez, plus vous confortez les élèves à prendre cette insécurité avec ce qu'ils voient. C'est pour ça que je vous donne des exemples concrets pour pouvoir montrer comment un cadre peut être donné. Alors, je vais arriver sur mon dernier exemple. Là, il s'agit de comparer. La comparaison est finalement quand même une des opérations les plus porteuses d'apprentissage. Donc, il s'agit là, du coup, de comparer une lithographie de Fernand Léger, qui date de 1950, Le Cirque, et un extrait de The Circus, film de Charlie Chaplin, réalisé en 1928. Donc, encore une fois, nous avons un sujet similaire, deux images apparemment identiques. Et là, on va travailler la question des supports. On va travailler la question des médiums, la peinture, le cinéma. Alors, on a une lithographie, mais comme on travaille sur une reproduction, on peut réfléchir, enfin, lithographie, peinture. Bon, après, on peut aussi décider de travailler la différence entre une lithographie et une peinture. Mais là, il faut vraiment être devant les œuvres en vrai. Par contre, le dispositif cinématographique a des spécificités qui peuvent être réellement mises en évidence dans le cadre de cette comparaison. Alors, on commence toujours par les différences et les similitudes. Représentation en couleur ou en noir et blanc. Image fixe ou image mouvement. Choix d'un plan plus rapproché et d'un plan plus large. On va chercher à identifier la différence technique, les différences techniques et formelles. Et on va essayer de qualifier aussi deux expériences visuelles. Il s'agit ici de montrer ou de découvrir que le cinéma ne montre pas ce que la peinture donne à voir, et vice-versa, la peinture ne désigne pas ce que le cinéma nous montre. Donc avec Fernand Léger, on est dans l'autonomie de la peinture, qui se caractérise par un agencement des lignes, des formes et des couleurs. Alors que le cinéma, qu'est-ce que c'est ? C'est l'image projetée. Lorsque le tableau regarde le spectateur peut décider du temps qu'il lui faut pour saisir tous les détails. Il peut donc s'adonner à des associations d'idées dans une expérience de contemplation. Au cinéma, l'expérience est complètement différente. Le spectateur est envahi par le flux des images. À peine son œil les a-t-il saisies, qu'elles sont déjà métamorphosées. Donc les apparitions-disparitions des ombres lumineuses au cinéma constituent une expérience visuelle et temporelle qui peut être évoquée, décrite, partagée avec les élèves dans ce genre de comparaison. Pour en comprendre les effets, il est possible par exemple de décomposer une séquence cinématographique et de montrer que l'image fixe, donc la photographie, qui est la composante essentielle du cinéma, n'existe jamais pour elle-même et s'inscrit toujours dans le mouvement, la durée, le changement. Cette activité enseigne que le cinéma, c'est d'abord du montage, 24 images par seconde, et que faire un film, c'est considérer le rapport que chaque image entretient avec celle qui est juste avant, celle qui est juste après. Puis, le montage dans son ensemble. Alors, si avec les plus jeunes, arriver à ce constat, c'est déjà un apprentissage, il sera possible d'aller plus loin avec des collégiens des lycéens en partant, en regardant de plus près une œuvre cinématographique comme par exemple À propos de Nice, qui est un court-métrage de Jean Vigo, ou L'homme à la caméra de Vertov, qui sont deux films d'ailleurs filmés en 1929. Alors, je ne vais pas entrer dans ces détails-là maintenant, parce que je vais évoquer cette piste cet après-midi dans l'atelier que je proposerai sur le cinéma. Mais finalement, pour prolonger la découverte du cinéma, l'enseignant peut porter attention sur le choix aussi des différentes échelles de plans. Ça, c'est quelque chose qui est assez facile à travailler. Gros plan, plan moyen, plan d'ensemble. Alors, donc... En observant attentivement une minute de film, la classe apprend à montrer ce qui fait la différence entre plus près, plus loin, derrière, devant, petit, en gros. Et finalement, on peut s'initier assez tôt au lexique cinématographique. Gros plan, plan moyen, plan large. Quelque chose qui va être repris dans la peinture, dans la lecture des images, la photographie. Donc en regardant la place de cette séquence dans le film, on va noter par exemple que Charlie Chaplin présente l'écuyère Merna comme l'un des personnages principaux. Donc les élèves vont prendre conscience que le gros plan met en évidence la beauté et la grâce de cette jeune femme qui va séduire Charlot. On pose ici les premiers jalons d'un apprentissage qui s'inscrit dans la maternelle mais qui peut aller vraiment au-delà. À partir de là, finalement, donc on reste toujours dans la façon de filmer, produit un certain effet chez le spectateur. En nous montrant Merna en gros plan, nous comprenons que sa beauté, sa grâce vont emporter finalement et conduire le fil de la narration de ce film. Et à partir de là, avec des collégiens, on pourra observer des extraits de films qu'ils affectionnent particulièrement, par exemple les grosses productions américaines, les films d'action ou de suspense, pour objectiver ces films, vraiment, les sortir de l'expérience personnelle, individuelle, et les faire rentrer comme des objets d'étude, les regarder d'un autre point de vue que celui qu'on a quand on va au cinéma avec des copains. Et cette décontextualisation du cinéma pourra se faire en identifiant comment ou par quel procédé cinématographique le suspense, l'action se construisent et quelle relation s'établit entre ces procédés et l'effet que ça produit chez le spectateur. Et je pense que toute la difficulté de l'éducation prioritaire, c'est d'être à la fois dans les objets qui concernent les élèves, leur culture de référence, leur culture d'appartenance, et en même temps de les emmener ailleurs. Et de faire finalement de ne jamais figer les choses, de ne jamais séparer la culture scolaire, la culture des banlieues, etc., la culture adolescente, la culture savante. Voilà, de surtout tout le temps créer des passerelles pour faire en sorte que toutes ces références culturelles travaillent ensemble, agissent ensemble, et que c'est pas parce qu'on aime un tableau de Picasso, de Velázquez, qu'on n'aime pas voir un film d'action ou de suspense, dernière production américaine, Gravity, je ne sais quoi. Voilà, donc il n'y a pas de contradiction, mais par contre il y a des passerelles et des passages. Alors, encore une fois, j'insiste aussi sur l'usage de la pratique artistique. L'usage de la pratique artistique à l'école maternelle, primaire, etc., n'est pas forcément le lieu de l'expression personnelle, de la créativité personnelle. Ça peut l'être, mais je pense que la pratique artistique peut être aussi utilisée pour regarder, comprendre, s'intéresser à autre chose qu'à soi. Pour les plus jeunes, par exemple, quand on travaille sur cette question des échelles de plan, on photographie, on filme quelqu'un en gros plan, puis en plan large, on mesure la différence des effets produits, on se pose la question, quand on voit un plan, où est la caméra ? On soulève un problème qui peut donc du coup être expliqué, traité avec la manipulation. On apprend par là même que le cinéma, ce n'est pas seulement une façon de montrer quelque chose, mais que le cadre, c'est aussi une délimitation avec ce qui ne sera pas donné à voir. C'est-à-dire que le cinéma, c'est cadré, c'est montré, mais c'est aussi caché. Donc, qu'est-ce qu'on cache quand on fait un film? C'est une question qui peut être intéressante. Qu'est-ce qui est toujours en hors-champ? Qu'est-ce qui sort du cadre? Donc, on voit bien comment la pratique s'articule à l'observation. Et finalement, la pratique, en sortie un peu de l'expression personnelle, de la créativité, qui peut être un piège parce qu'en fait, on est tout le temps sur soi. On parle de soi, on est dans l'autobiographie, l'autocentration. Si la pratique est utilisée pour s'amuser finalement, pour découvrir des procédés, les expérimenter, elle permet aussi une créativité et de développer une imagination parce que elle la nourrit finalement, tout simplement. Hein. L'idée, c'est d'être projeté aussi un peu dans construire, créer, imaginer, mais au-delà de soi. Alors, pour conclure, très rapidement, je dirais que l'observation attentive des œuvres, en direct ou au moyen de leur reproduction, et ceci n'est pas contradictoire mais bien plutôt complémentaire, tout ça a pour but de donner des repères et des outils qui sont à la fois intellectuels, savants, mais aussi sensibles et imaginatifs pour les plus jeunes. Et l'idée, c'est qu'ils s'orientent, qu'ils aient des outils pour s'orienter dans ce grand, vaste champ du visible. Je reparlerai cet après-midi un peu de cette question des images, de l'hégémonie du monde des images, etc., surtout pour toute la jeunesse, le numérique, toutes ces choses-là. Donc ce travail-là d'observation attentive dans le détail par la comparaison permet du coup de préserver l'interrogation qu'il y a dans le fait de voir. Et cette interrogation qui surgit très facilement et naturellement chez les plus jeunes, on les voit encore en maternelle, elle doit absolument être consolidée dans les années qui suivent. Pour que les adolescents, justement, ne prennent pas ce qu'ils voient pour argent comptant ou pour des vérités immuables, et pour que ces jeunes soient outillés face au risque de la manipulation ou du conformisme qui agit d'autant plus qu'on a accès à l'information sur le web. Donc l'enseignant joue ici un rôle majeur, le formateur, au sens large, comme vous pouviez le dire tout à l'heure. Et je pense que pour cela, il lui faut cultiver pour lui-même d'abord, et pour ses élèves ensuite, une relation de proximité avec l'art, en fréquentant régulièrement les espaces d'exposition, les salles de cinéma, de théâtre, l'opéra, la danse, en se donnant aussi à lui des espaces d'exploration personnelle, des temps de recherche pour lui, des temps de formation pour lui et ses élèves. Je pense que si on ne cultive pas quelque chose, on peut difficilement le transmettre. C'est un peu la difficulté qu'on a. Et moi, ce que je propose, c'est que pour le développement de ce genre d'expérimentation, puisque il faut expérimenter pour pouvoir se développer, pour pouvoir essayer de réussir dans l'éducation prioritaire, on peut imaginer des expérimentations ciblées, encadrées par la recherche, et explorer à partir de là des formes de travail qui sont un petit peu innovantes, on va dire. Voilà, je vous remercie pour votre attention.